Avant d'entamer mon propos, j'aimerais dire que quand j'ai accepté de faire ce cycle de conférences, je n'avais pas pris conscience que celle de ce soir me reviendrait. Donc je vous demanderai d'être très indulgent, car le sujet est d'une ampleur infinie. D'autre part, la question posée de qui Dieu est-il le nom est une question délicate, et je vais même m'attacher dans un premier temps à montrer qu'elle n'a pas vraiment de sens. Dans un deuxième temps, j'aborderai des questions qui sont compréhensibles, mais qui vont demander une certaine technicité philosophique. Et dans un troisième temps, je vais aborder des questions qui sont pour le coup absolument incompréhensibles, au sens propre du terme. Donc je vous demanderai d'être patient et indulgent. Alors il est d'usage en français d'écrire le mot Dieu avec une majuscule, comme s'il s'agissait d'un nom propre. Or il y a là une confusion. Il y a une confusion car le mot Dieu, même avec une majuscule, n'est pas un nom propre. Autrement dit, le nom de Dieu n'est pas Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Pour preuve, on doit traduire ce terme d'une langue à l'autre, alors qu'un nom propre ne se traduit pas. Il se transcrit, il se translittère, on l'adapte à la phonétique de la langue dans laquelle on le traduit. Par exemple, en hébreu, le nom de Jésus, c'est Yeshua, qui ensuite en grec est devenu Jésus, et puis ensuite Jésus en français par des déformations successives, mais ce ne sont pas des traductions du nom de Jésus. Le terme Dieu, lui, il se traduit. En anglais, Dieu se dit God. En allemand, Gott. En latin, Dieu se dit Deus. En grec, Theos. En hébreu, Dieu se dit Elohim, qui n'est pas le nom de Dieu. Et l'étymologie confirme cette analyse. Elohim, à ma connaissance, est de la même racine que le mot arabe Allah. C'est la même racine sémitique, d'après ce que j'ai appris. D'où, d'ailleurs, la volonté de certains chrétiens dans des pays musulmans de pouvoir appeler leur Dieu Allah, ce qui suscite l'indignation, je crois que c'est en Malaisie ou en Indonésie, je ne sais plus, de certains musulmans. Le terme Dieu, en français, vient du latin Deus, et il est de la même racine que le nom du dieu grec Zeus, qui fait au génitif Dios. C'est malin. On a un dieu, et l'emploi de cette appellation renvoie implicitement au dieu des Grecs, au dieu suprême des Grecs. Mais les Anglais et les Allemands, c'est ce qui va nous consoler, ont le même problème. Hein, God et Got sont de la même racine que Wotan ou Odin, le dieu des anciennes mythologies germaniques et scandinaves. Autrement dit, la seule chose qui nous sauve ici, quand nous appelons Dieu par le terme Dieu, c'est que ce n'est justement pas un nom propre. Sinon, on pourrait nous accuser d'idolâtrie et d'adorer encore Zeus, si nous sommes français, ou Wotan, si nous sommes allemands. En somme, lorsque les chrétiens parlent de Dieu, ils emploient pour ce faire un nom commun, ou serait-il plus juste de dire un prédicat. Alors pourquoi est-ce que le terme de nom commun est en fait problématique, au point que je préfère le terme de prédicat, c'est que justement un nom commun est commun à plusieurs individus d'une même espèce. Quand vous employez le nom commun chien, il y a plusieurs individus qui peuvent s'appeler Médor, Toutou, etc., qui sont des individus de l'espèce chien. C'est ça le propre d'un nom commun, c'est que justement, il est commun. Mais quand on parle de Dieu et qu'on est chrétien, on croit que justement l'appellation Dieu n'est pas commune à plusieurs échantillons d'une même espèce. Donc Dieu, ce n'est pas un nom propre, ce n'est pas non plus à proprement parler un nom commun. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme ? Faudrait-il alors désigner Dieu par un nom propre ? Car d'après la Bible, il y a un nom propre de Dieu. Il y a un nom propre de Dieu qu'on peut écrire avec quatre lettres hébraïques, d'où l'expression tétragramme, ça veut dire ce qui est conçu de quatre lettres, yod, he, vaf, he, qu'il faut se garder de prononcer, je ne le prononcerai pas. Et d'ailleurs, ce qui va nous consoler de ne pas le prononcer, c'est que, d'une part, il est interdit de le prononcer, Et d'autre part, personne ne sait exactement comment il faudrait le prononcer si on avait à le prononcer, puisque le secret de sa prononciation était gardé par le grand prêtre de Jérusalem et transmis de génération en génération. Le grand prêtre qui exerçait à Jérusalem à l'époque du Temple, dans l'Antiquité, n'avait le droit de prononcer le nom de Dieu qu'une fois par an, le jour du grand pardon, dans le Saint des Saints. Mais depuis que le Temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70, la tradition s'est perdue et plus personne ne sait exactement comment devait se prononcer le nom de Dieu, d'où d'ailleurs des tentatives de reconstitution plus ou moins heureuses par des érudits ou par des personnes qui ne connaissent pas bien le problème. Donc on a Jéhovah, c'est certainement pas une bonne prononciation. Voilà. Quant à Yahvé, c'est peut-être la prononciation, mais j'espère que non, puisque je viens de prononcer ce nom. Voilà. Donc, évitons de prononcer le nom de Dieu. Dieu a un nom propre, mais justement, son nom, c'est pas Dieu. Donc, après en parler, la question que j'avais à traiter ce soir n'a pas de sens, puisque Dieu n'est le nom de personne. Et si vous voulez, je peux rentrer chez moi. Non, je ne vais pas rentrer chez moi. Alors, cette première approche du nom de Dieu est destinée à faire part d'un embarras. Parce que quand nous parlons de Dieu dans un contexte culturel, nous croyons savoir de qui ou de quoi nous parlons. Alors qu'au fond, nous employons pour ce faire une expression problématique d'un point de vue grammatical. Et à force de parler de Dieu, nous oublions une chose très importante, que ce que nous essayons de désigner par Dieu est très mystérieux. Et justement, si je tenais à commencer cet exposé en faisant part de cet embarras, c'est pour nous amener à prendre conscience à quel point la familiarité avec laquelle nous parlons de Dieu a tendance à occulter le mystère de Dieu. Quand nous ne savons pas le nom de quelqu'un, nous pouvons assez couramment utiliser des périphrases. Alors, les philosophes analytiques, l'école de philosophie particulière, diraient des descriptions définies. Alors, les descriptions définies sont des tournures qu'on emploie pour désigner des individus quand justement on ne connaît pas leur nom. Par exemple, vous êtes invité à un mariage, vous tournez vers votre voisin en désignant une personne, vous dites « la dame au chapeau vert un peu mûr avec un large décolleté qui fume beaucoup et a un accent vulgaire ». Et si votre interlocuteur vous répond « oui, c'est ma femme », vous avez réussi votre opération. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à désigner un individu par le détour d'une description, mais d'une description faite de telle sorte qu'elle ne peut correspondre qu'à un individu. Voilà. Donc on peut essayer de désigner Dieu, puisqu'on n'a pas de nom à en parler, et celui qui existe, on ne peut pas l'utiliser, par des descriptions définies. Une description définie peut se substituer à un nom propre pour désigner quelqu'un, parfois quelque chose. Si je dis la fille cadette de Minos et de Pasiphae, vous avez compris que je veux parler de Phèdre. Bon. Si je dis le confident d'Othello, vous avez compris que je veux parler de Iago. Si je dis l'époux de Juliette Capulet, vous avez compris que je parle de Roméo Montaigu. Ça fait plaisir d'avoir affaire à un public cultivé. Toutes les formules que j'ai employées sont ce qu'on appelle des descriptions définies. Alors, à défaut de pouvoir désigner Dieu par un nom, on pourrait se rabattre sur des descriptions définies. Dieu, c'est le créateur de l'univers, par exemple. Dieu, c'est celui qui a parlé par les prophètes. Dieu, c'est celui qui inspire l'amour de charité. Et toutes ces tournures sont vraies. Ce qui me gêne ici, ce ne sont pas ces formules qui sont tout à fait justes et qui commencent à nous permettre de parler de Dieu d'une manière convenable. Ce qui me gêne ici, c'est le terme de description, vous voyez, employé par les philosophes quand ils parlent de description définie. Car en règle générale, quand on décrit, on donne une image de l'être que l'on décrit ou on lui assigne une certaine essence. Si je vous décris un chien, après, normalement, si je vous donne une bonne définition du chien, vous saurez ce que c'est qu'un chien, vous posséderez l'essence du chien. Si je vous décris un certain objet, après, vous aurez une idée précise de ce qu'est cet objet en lui-même. Or, il se trouve que, d'après les plus grands penseurs chrétiens, l'essence de Dieu, on ne peut pas la décrire comme cela. L'essence de Dieu est foncièrement mystérieuse. Et donc, quand nous employons des descriptions définies pour parler de Dieu, en fait, ces descriptions ne nous livrent pas forcément directement l'essence intime de Dieu. Elles nous font connaître Dieu à travers une certaine relation. Je vais vous donner des exemples de descriptions définies qui sont en fait des relations, qui expriment des relations. Alors, je les ai empruntées à des films, donc à des westerns ou à des romans policiers. Alors, premier exemple de description définie qui n'est pas la description d'une essence, mais d'une relation, c'est l'homme qui tua Liberty Valance. Alors, il y a l'homme qui, mais celui qui a tué Liberty Valance. Celui qui a tué Liberty Valance. Justement, quand je vous parle de celui qui a tué Liberty Valance, cette expression a un sens précis, d'accord ? Mais le fait que j'ai employé cette expression ne vous permet pas de savoir le nom de celui qui a tué Liberty Valance. Et d'ailleurs, si vous savez que Liberty Valance a été assassiné au passage, vous savez donc qu'existe bien quelqu'un qui est le tueur de Liberty Valance. Il existe. Mais vous pouvez vous tromper en essayant de mettre la main sur celui qui a tué Liberty Valance. Parce que justement, si vous connaissez le western en question, celui qui a tué Liberty Valance n'est pas celui que l'on croit, mais un autre. Deuxième exemple, l'auteur du crime de l'Orient Express. L'auteur du crime de l'Orient Express. Là encore, j'ai apporté un élément de description, mais qui n'est pas une description d'essence. Et si vous connaissez le roman, vous savez que l'expression « l'auteur du crime de l'Orient Express » est à la fois vrai, il y a vraiment un crime de l'Orient Express, et d'une certaine manière, il y a un auteur, sauf que cet auteur n'est pas un individu, c'est un groupe. Je crois que c'est un groupe de 12 personnes, je ne sais jamais si, combien ils sont. Ils sont 12, il y en a qui confirment. Ça fait plaisir d'avoir affaire à des gens cultivés. Bien. Troisième exemple, l'auteur du double crime de la rue Morgue. L'auteur du double crime de la rue Morgue. Vous voyez, on s'exerce, hein. L'auteur du double crime de la rue Morgue. Donc si vous connaissez l'histoire... Déjà, vous savez que là, mon expression est inadéquate parce que ce qu'on va apprendre, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment un double crime. Ce n'est pas vraiment un crime parce qu'un crime, normalement, est commis par un être humain qui est une personne qui est responsable de ses actes. Et en fait, il faudrait dire l'auteur du double homicide de la rue Morgue. Là, l'expression ne serait pas erronée puisque l'auteur du double homicide de la rue Morgue est un orang-outan. Bravo! Bravo. Ce qui m'importe ici, c'est quoi ? Dans la comparaison de ces diverses expressions. Ici, nous désignons pas forcément un individu, ça peut être un groupe, vous voyez, 12 personnes. Nous désignons un être qui n'est pas forcément une personne à travers une action qu'il a commise. D'accord ? C'est que cette action désigne une relation qui met en relation l'acte qui a été produit avec celui qui est cause de cet acte. Hein. On sait qu'existe l'auteur de cet acte, il n'y a pas d'effet sans cause, mais ce qu'il est, justement, ne nous est pas livré du simple fait qu'on a donné cet élément de description, qui n'est pas exactement une description d'essence, qui est ce prédicat qui fait que signifie l'expression « celui qui a tué Liberty Valance »,« celui qui a commis le crime de l'Orient Express » ou « celui qui a commis le double homicide de la rue Morgue ». Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt d'un roman policier, c'est qu'on dispose, on sait l'existence d'un certain être, mais on ne connaît pas encore qui il est du simple fait qu'on sait qu'il existe et qu'on a un critère d'identification. Alors jusqu'ici, on cherchait l'auteur d'un crime. Là, nous allons nous engager dans une recherche un peu plus ambitieuse, d'une certaine manière. Nous allons chercher qui est celui que les chrétiens désignent comme le créateur de l'univers, celui qui a parlé par les prophètes, celui qui inspire l'amour de charité, etc. Et le fait que nous disposions de ces critères d'identification ne signifie pas que nous avons là directement accès à son essence. Ce qui fait qu'on peut parler de Dieu, mais justement, nous ne devons jamais oublier en parlant de Dieu, il demeure en permanence un mystère sur qui il est profondément. Et nous avons beau multiplier le discours sur Dieu, beau multiplier ces critères d'identification qui sont des prédicats, des constructions prédicatives, ce n'est pas pour autant que tout ce discours sur Dieu puisse prétendre ôter son mystère à l'essence divine. Alors, pour mieux comprendre notre sujet, je vais maintenant déployer un raisonnement en trois parties. Le Dieu des chrétiens, c'est d'une certaine manière le Dieu des philosophes et des savants. D'une certaine manière, on peut le dire avec prudence, sans l'être non plus tout à fait, puisque c'est beaucoup plus que cela. Mais nous verrons dans un deuxième temps que le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance avec le peuple hébreu. Mais le Dieu des chrétiens, même révélé à travers l'ancienne alliance, à plus forte raison tel qu'il est pensé par certains philosophes, pas tous, ne se révèle pleinement dans son essence que dans le mystère du Christ. Donc le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui va se révéler en Jésus-Christ. Mais pour comprendre à quel point cette révélation est bouleversante, il faut commencer par faire un détour par les tentatives d'approche de Dieu faites par l'homme dans la philosophie, et puis ensuite voir les limites de ce qu'est la révélation de Dieu dans l'ancienne alliance. Car Dieu, nous ne pouvons le connaître qu'à travers des relations. Et tant qu'on est dans les relations étudiées par les philosophes, et même dans les relations qui se révèlent dans l'Ancien Testament, on n'a pas encore accès à l'essence intime de Dieu. Mon premier point concerne le Dieu des philosophes et des savants. Alors Pascal, génie s'il en est, a laissé un texte très émouvant, plus qu'émouvant, c'est un témoignage personnel qui n'était pas du tout destiné à publication, qu'on appelait son mémorial. C'est un ensemble de propos qu'il a écrits dans le cadre d'une expérience mystique, qui est une sorte d'expérience, dirait-on, d'effusion de l'esprit de nos jours, dans un langage emprunté au charismatique. Il fait une rencontre de Dieu et il en garde une trace écrite pour lui-même qu'il gardera cousu sur lui toute sa vie. On espère pour lui qu'il ne changeait pas trop souvent de vêtements, mais parce qu'il fallait à chaque fois qu'il découse ce papier, qu'il le recouse à l'intérieur de son vêtement. Et dans ce texte, il fait part de son expérience depuis environ 10h30 du soir jusqu'aux environs de minuit et demi, feu. Et ensuite, il se met à invoquer Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Je pense qu'il faut absolument faire droit à ce refus de Pascal d'assimiler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance, au Dieu des philosophes et des savants. Pourquoi ? Parce que bien souvent, le Dieu des philosophes et des savants n'est pas un Dieu que l'on prie. C'est un Dieu qui est présenté comme une idée, qui est présenté comme le sommet d'un système théorique. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui veut nous sauver, c'est un Dieu qui vient à notre rencontre. Autrement dit, dans le cadre d'une expérience mystique, il est, je dirais, tout à fait sain et normal que Pascal écrive que le Dieu qu'il rencontre n'est pas à mettre sur le même plan qu'un objet de conception intellectuelle tel que le Dieu des philosophes et des savants. Donc il faut faire droit à ce rejet pascalien des philosophes et des savants. Et cependant, si l'on veut être tout à fait juste, il faut également faire droit, comme le fait Thomas d'Aquin, à l'idée que la raison humaine est capable de penser Dieu. La raison humaine est capable de penser Dieu, mais... Donc Thomas d'Aquin, par exemple, considère que l'existence de Dieu est démontrable, mais attention, il faut aussi prendre conscience des limites de cette connaissance philosophique de Dieu. C'est pourquoi j'ai photocopié pour vous un texte issu de la Somme théologique, question 12, « Comment Dieu est connu par nous ?» où Thomas d'Aquin pose la question « Pouvons-nous en cette vie connaître Dieu par raison naturelle ?» Pouvons-nous en cette vie connaître Dieu par raison naturelle ? Alors, il faut comprendre que pour Thomas d'Aquin, ce qui n'est pas en question ici, c'est la question de la démontrabilité de l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Thomas d'Aquin estime, comme à peu près la plupart des philosophes de son temps, que l'existence de Dieu se démontre et qu'elle est bien démontrée. Ce qui est en jeu ici n'est pas la connaissance de l'existence de Dieu, c'est la connaissance de ce qu'est Dieu. C'est-à-dire que Thomas d'Aquin reprend par exemple une démonstration aristotélienne de l'existence de Dieu, empruntée à Aristote, consiste à dire qu'en gros, pour que le monde tourne, il faut qu'il y ait un premier moteur immobile. Et pour Thomas d'Aquin, cette démonstration, elle est valide. Je ne vais pas discuter ici pour savoir si l'argumentaire aristotélicien est valable ou pas, mais elle est valide pour Thomas d'Aquin. En quoi il est aristotélicien ? Mais, attention, c'est comme dans le cas de l'homme qui a tué Liberty Valence. On sait que Liberty Valence a été tué. Donc on sait qu'existe quelqu'un qui a tué Liberty Valence. D'accord ? Pour Thomas d'Aquin, on sait que le monde tourne. Et on sait qu'il ne pourrait pas tourner tout seul. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui fait tourner le monde. Il appelle ça premier moteur immobile. Mais une fois qu'on a posé qu'existe ce quelque chose qui est cause du mouvement du monde, reste à savoir ce que c'est. Et c'est là que les choses se compliquent. Et c'est là que cette connaissance philosophique de Dieu va montrer ses limites. Que dit Thomas d'Aquin ? Je lis seulement le deuxième paragraphe. Donc il a dit dans un premier temps, à partir de la connaissance des choses sensibles, on ne peut connaître toute la puissance de Dieu ni par suite son essence. On ne peut pas voir son essence. L'essence de Dieu nous échappe. Toutefois, puisque les effets dépendent de la cause, nous pouvons être conduits par eux à connaître ici de Dieu qu'il est. Donc on peut savoir que Dieu existe. Et à connaître les attributs qui lui conviennent, comme à la cause première universelle, transcendant tous ses effets. Donc on ne sait pas très bien ce qu'est Dieu en lui-même, mais on sait qu'il est cause de l'existence de toute chose. Maintenant, à quoi ressemble cette cause ? Qu'est-ce qu'elle est au fond en elle-même ? C'est plus compliqué. Donc nous connaissons sa relation aux créatures. Vous voyez, c'est qu'une connaissance par sa relation aux créatures. Il est cause de l'existence des créatures, il est cause de leur mouvement, il est cause d'un certain nombre de choses. Et à ce titre-là, on le connaît comme cause, mais là encore, c'est comme dans L'homme qui tue Liberty Valence, le fait qu'on sache que Dieu est celui qui meut le monde, celui qui donne l'existence aux choses, ne nous le livre pas encore son essence intime. On a ici la connaissance d'une certaine relation que Dieu a avec ses créatures. On peut aussi savoir la différence des créatures par rapport à lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est l'essence de Dieu positivement, mais au moins on sait déjà ce qu'il n'est pas. Il n'est aucune des créatures. On sait que ce n'est pas un corps, ce n'est pas un objet matériel, on sait que ce n'est pas non plus un fluide vital, voilà, tel qu'on pourrait en trouver dans la nature, on sait que ce n'est pas la nature. On sait que ce n'est pas non plus un esprit au sens ordinaire du terme, parce que ce que généralement on entend par esprit, ça correspondrait plutôt à ce que saint Thomas d'Aquin appelle un ange ou un démon. Donc on sait que Dieu n'est ni un ange ni un démon, etc. Autrement dit, on sait ce qu'il n'est pas. Parce que tout ce qu'on peut se représenter positivement, bah justement, à partir du moment où on se représente l'essence, parce qu'on ne peut pas se représenter l'essence de Dieu, on sait que tout ce dont on peut se représenter positivement l'essence, ce n'est pas Dieu. D'où l'idée que si nous essayons de penser Dieu, chaque fois que nous croyons avoir compris positivement, précisément ce qu'est Dieu, eh ben c'est qu'on est passé à côté du sujet. Dieu est au-delà non seulement des réalités sensibles, mais même des concepts positifs qu'on peut former sur lui. On sait que Dieu n'est pas la matière. En ce sens, on peut dire qu'il est esprit, mais il n'est pas esprit à la manière des esprits que nous pouvons nous représenter positivement. C'est-à-dire que si pour nous l'esprit, c'est l'âme telle que nous la vivons, il vaudrait mieux dire que Dieu n'a pas d'âme, parce qu'il est au-delà de ça. Nous savons que, enfin, ces attributs de Dieu, on ne les lui refuse pas comme lui faisant défaut, mais parce qu'il est trop au-dessus d'eux. Là, j'ai dit de manière un peu provocatrice, Dieu n'a pas d'âme. Mais oui, Dieu n'a pas d'âme. Non pas parce que si vous divisez le monde entre ce qui est animé et ce qui est inanimé, Dieu serait inanimé à la manière d'une chose. Mais parce que le terme d'âme est impropre à rendre compte de ce qu'est Dieu en tant qu'être qui pense, qui vit. On est en dessous de ça. Et donc, si Dieu n'est pas tel que nous nous le représentons chaque fois que nous essayons de le représenter, ce n'est pas parce qu'il est en dessous de ce que nous représentons, c'est parce qu'il est infiniment au-dessus. Autrement dit, pour Thomas d'Aquin, il y a une connaissance philosophique de Dieu. Cette connaissance permet de poser l'existence de Dieu en examinant les relations qu'il peut avoir avec ses créatures. Mais en même temps, cette connaissance philosophique est toujours incomplète, inachevée, parce qu'elle nous fait manquer l'essence de Dieu. Vous voyez ? C'est comme si, menant une enquête pour savoir qui a tué Liberty Valance, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tué Liberty Valance, mais on n'en sait pas plus. Donc on est déçu. Donc la philosophie, elle peut parler de Dieu, elle peut, d'après Thomas d'Aquin, elle peut même démontrer qu'il existe, mais cette connaissance philosophique, elle nous laisse insatisfaits, elle laisse se dérober l'essence de Dieu. Mais l'homme n'est pas capable de connaître positivement l'essence de Dieu par ses propres efforts, mais il y a autre chose, c'est que Dieu peut venir à la rencontre de l'homme. Et c'est ce qui nous conduit à un deuxième niveau de pensée. C'est-à-dire que le Dieu des chrétiens, ce n'est pas seulement le Dieu des philosophes et des savants, que les philosophes et les savants ne peuvent pas connaître positivement dans son essence, dont ils peuvent juste soupçonner l'existence. Le Dieu des juifs et le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui est venu au-devant des hommes dans une révélation. Et cette révélation, elle commence avec Abraham, Isaac et Jacob. Et le Dieu des juifs et des chrétiens, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu qui révèle son nom. Il révèle son nom. Il révèle son nom dans un passage célèbre de la Bible, qui est dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. Exode 3, 14. 3, 14, on dirait qu'il a fait exprès pour qu'on retienne à travers le nombre pi que, où on pouvait trouver son nom dans la Bible. Donc c'est encore un signe de la providence. Voilà. Voilà, exactement. Donc vous retenez Exode pi et vous avez la référence. Alors, c'est moi qui me perds dans mes papiers. Voilà. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob révèle son nom à Moïse. Il révèle son nom à Moïse. Il commence par se décrire à travers une description définie. Vous voyez, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors le terme de Dieu, bon, je vais quand même dire ce que ça veut dire Dieu. Parler d'un Dieu, c'est parler d'abord d'un objet d'adoration. Un être à qui on peut adresser des prières. Fondamentalement, c'est ça. Voilà. On a affaire à du Dieu, à tort ou à raison, lorsqu'on a affaire à quelqu'un à qui les hommes croient pouvoir adresser des prières. Ça peut être des prières de demande, ça peut être des prières d'adoration, etc. C'est-à-dire des êtres qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence humaine depuis un point de vue supérieur. Bon. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient en relation avec un être supérieur. C'est quelque chose qui existe. Quelque chose qui existe, mais on ne sait pas trop ce qu'est son essence. Voilà. Bon. Voilà. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'accord ? Donc c'est quelque chose qui existe. patriarcat, qui s'est présenté à eux comme un dieu, mais Abraham, Isaac et Jacob, du moins dans une certaine veine biblique, Abraham, Isaac et Jacob ne connaissent pas vraiment son nom. Ils ne le connaissent pas par son nom. Ils l'appellent le Très-Haut, El Shaddai, etc. Et c'est seulement Moïse à qui Dieu va dire son nom. Et quel est ce nom ? Donc, verset 13, Moïse, donc le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, lui apparaît à travers le buisson ardent, confie à Moïse une mission. Alors, Moïse n'est pas forcément très joyeux, parce que, bon, aller s'adresser à Pharaon alors qu'il est recherché pour crime, voilà, qui est l'homme qui a tué, non pas Liberty Valence, mais un Égyptien local, c'est Moïse, justement. Donc, il n'a pas du tout envie d'aller en Égypte. Bon, alors, il essaie de se dérober un petit peu, il n'y arrive pas, et... Bon, voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis, du verbe être, je suis celui qui est. Voilà, non, je n'ai pas dit que Dieu n'était pas un être, vous voyez, il est. Il est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Celui qui est m'envoie vers vous. Le nom propre de Dieu, c'est celui qui est. Celui qui est. Celui qui existe. Celui qui existe, ce qui peut se comprendre de plusieurs manières. Celui qui existe parce que c'est le seul qui ne peut pas ne pas exister. On peut le penser en termes d'existence. Et cela est à mettre en relation avec une idée proprement juive et chrétienne qui va être l'idée de création, qu'on ne trouve pas chez les Grecs. Chez les Grecs, il y a l'idée de Dieu qui fabrique le monde à partir de matières préexistantes, par exemple. Bon, on trouvait un peu ça chez Platon. Il y a les matières, la forme, il y a un démiurge. Bon, mais non, ce n'est pas du tout ça, la création. La création, c'est une création ex nihilo, à partir de rien. C'est un Dieu qui donne l'existence à toute chose sans que rien ne préexiste à l'existence de cette chose. C'est-à-dire que tout ce qui existe, dont nous concevons l'existence, nous concevons que ça pourrait ne pas exister. Et Dieu, c'est cet être qui est au-delà de tous nos concepts, de toutes nos idées, qui justement est seul à exister de toute nécessité. Mais nous ne pouvons jamais vraiment nous le représenter positivement. Donc Moïse rencontre quelqu'un qui lui dit « je suis celui qui suis ». Une première interprétation. Il y a une autre interprétation que préfèrent souvent les exégètes contemporains, qu'on sait dire que... Dieu se dérobe dans sa réponse. Il dit « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est », ce qui est une manière de dire « Je ne vais pas te dire ce que je suis ». Et cette interprétation est également valide. Car celui qui est, c'est justement celui dont on ne peut jamais délimiter ce qu'il est. Parce qu'il est toujours au-delà de nos concepts, de nos idées, de nos représentations. Il est toujours au-delà. Donc c'est celui dont l'essence nous échappe toujours. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien savoir sur lui. On peut savoir beaucoup de choses sur les relations qu'il a avec ses créatures, par la philosophie, ou les relations qu'il a construites dans l'histoire humaine par la révélation, en venant au devant des hommes, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Là, on peut savoir des choses sur lui. Mais son essence, elle nous échappe. Il y a un troisième sens à « je suis celui qui suis ». Troisième sens. Voilà. C'est « je suis l'Éternel ». Hein, c'est ce que dit Dieu dans la version des 10 commandements de Cécile B2000. « Je suis l'Éternel », voilà, avec une voix grave de préférence. C'est l'époque où on se représente un Dieu viril, mais à partir du moment où on se représente Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu. Ça vient justement d'une tradition qui passe par Calvin et qui remonte à Saint-Augustin. Dieu, c'est l'Éternel par opposition à tout ce qui justement existe dans le temps, à un commencement d'existence, donc à une fin. Dieu, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Ce qui rejoint la première interprétation de ce « je suis celui qui est ». Donc il est, c'est celui qui est, ce Dieu, qui transcende nos représentations. Et ce Dieu construit une relation privilégiée avec le peuple élu. Il va construire une relation privilégiée avec le peuple élu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le Dieu qui a fait des promesses à Abraham. Un Dieu qui est resté fidèle à ses promesses, malgré toutes les imperfections, par exemple, de Jacob. C'est le Dieu qui est toujours là, toujours fidèle à sa promesse, et qui va accomplir ses promesses, et qui va réaliser une alliance avec Israël. Et dans cette alliance, il va se révéler comme un Dieu qui aime. C'est un Dieu qui aime son peuple, qui l'a choisi, qui va le choyer, qui va en prendre soin. Et il l'aime d'un amour extrêmement exigeant. C'est pour ça que le Dieu d'amour est aussi un Dieu de jalousie et de colère. Ben oui, oui. On dit souvent qu'en usant un peu pauvre de la morale, que l'amour exclut la jalousie et la colère. Non, 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 l'amour n'exclut pas la jalousie. L'amour, il exige, surtout quand il vient d'un être supérieur, quelque chose d'exclusif. Vous me direz, mais l'amitié, ça se partage. Oui, c'est vrai. Mais il y a un lien d'amour singulier qui fait que... Je passe mon temps à offenser mon prochain parce que j'ai souvent tendance à... Faut pas raconter sa vie. Hein. Bon, mais peu importe. À transposer la relation que j'ai avec certains amis, avec d'autres amis, assez spontanément. C'est-à-dire que quelqu'un me rappelle une autre personne que j'ai connue plus jeune, et j'ai tendance à reconstruire un peu le même type de relation. C'est extrêmement offensant, parce qu'avec chacun de nos amis, on devrait avoir un rapport absolument singulier. On ne devrait jamais avoir tout à fait la même relation avec chacun des amis que nous avons. Parce que justement, chacun est singulier. Donc même dans l'amitié, il y a une place pour une certaine jalousie. C'est normal d'exiger que nos amis aient pour nous une attention spécifique qui fait que la relation d'amitié qui nous unissent soit absolument singulière. Vous voyez ? Ça fait partie, je pense, de toute amitié véritable. Les amis ne sont pas interchangeables. Quand on aime vraiment un ami, on peut avoir d'autres amis. Mais on ne peut pas avoir la même relation d'amitié avec chacun de ses amis. Elle peut être de même niveau, mais elle ne peut pas être exactement la même, semblable. Là, parce qu'il y a une singularité dans la relation d'amitié. Voilà. Bon. Donc il y a de la jalousie. Là où il y a de l'amour, il y a de la jalousie parce qu'il y a une exigence de reconnaissance d'un lien singulier. Vous voyez ? Bon. Et il y a de la colère. Il y a de la colère. Le Dieu d'Israël est un Dieu de jalousie et de colère parce que c'est un Dieu d'amour. Il y a de la colère parce que la colère de Dieu, c'est une colère qui veut le bien de l'être aimé quand l'être aimé se nuit à lui-même. Si vous aimez vos enfants et qu'ils se conduisent mal, c'est normal de vous mettre en colère contre eux. C'est même un signe d'amour. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous voulons le bien de nos enfants, même si eux-mêmes se font du tort. D'où colère. Donc le Dieu d'amour, le Dieu de l'Ancien Testament, est un Dieu d'amour, donc un Dieu de jalousie et de colère. Nous sommes d'accord ? C'est un Dieu qui aime de manière privilégiée un certain peuple. Et il faut toujours regarder respectueusement la relation privilégiée qui unit Dieu au peuple d'Israël. Parce que c'est quelque chose qui nous instruit en profondeur sur le mystère de Dieu. Bon. Mais nous ne sommes pas encore exactement à la révélation chrétienne. Le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le Dieu qui aime de l'Ancien Testament. La nouveauté du Nouveau Testament, ce n'est pas de dire que Dieu aime. Ça, c'est ce que l'Ancien Testament passe son temps à dire. La nouveauté du Nouveau Testament, ça va consister à dire que Dieu est amour. Pas tout à fait la même chose. Dieu est amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu ? C'est que quand le Nouveau Testament révèle que Dieu est amour, amour de charité, eh bien, cet amour va révéler l'essence même de Dieu. Cet amour va révéler l'essence même de Dieu. C'est-à-dire que l'amour qui se révèle dans le Nouveau Testament va nous introduire dans l'intimité même de l'essence divine. C'est cela qu'il faut comprendre. Cet amour, c'est plus précisément ce qu'on va appeler l'amour, c'est plus précisément ce qui est en rapport avec le dogme chrétien central, qui est le dogme de la Trinité. Ce qui est important dans le dogme de la Trinité, c'est pas le côté quantitatif de la chose, est-ce que Dieu est un, triple ou trine, non. On en fait un problème quantitatif. si on veut comprendre quelque chose à cela, il faut revenir au cœur de la question. Le Dieu qui se révèle dans l'amour trinitaire, c'est le Dieu qui parle dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15. J'ai mis chapitre 14, c'est une erreur d'impression. C'est chapitre 15. Jésus, ce chapitre 15, est tiré d'un grand discours qui est le dernier discours de Jésus à ses disciples avant sa passion. Donc c'est le discours prononcé le jeudi saint après la scène. Et ce discours qui comprend quatre chapitres de l'Évangile selon saint Jean est introduit dans la liturgie par le verset suivant. À l'heure où Jésus passait de son monde à son Père, il dit à ses disciples. Et cela est bien connu des gens qui vont à la messe dans le temps pascal, puisque c'est dans le temps pascal qu'on lit ce long discours récapitulatif. Alors je lis à partir du verset 8, Philippe, le disciple Philippe, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Ah ben oui, ça nous suffirait, oui. L'essence divine nous échappant par définition, voir Dieu, oui, ça serait vraiment... Et là, Jésus répond par quelque chose qui est une provocation énorme. Enfin, on comprend pourquoi le grand prêtre Caïphe l'a mis sur la croix, enfin... Celui qui m'a vu a vu le Père. Il se prend pour Dieu ? Qui est-il pour dire ça ? Soit il l'est, vous êtes chrétien, c'est bien. Mais si vous n'en êtes pas, si ça ne vous convainc pas, ce gars est un blasphémateur. Donc ici, il faut choisir. Voilà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Alors attention, Jésus est le Fils. Et le Fils, en tant que Fils, n'est pas le Père. Et le Père n'est pas le Fils. Il y a là une relation. Père, c'est une relation. Il n'y a pas de Père sans Fils. S'il y en a ici qui sont arrivés à devenir Père sans avoir eu de Fils, enfin d'enfant, ils sont très forts. Voilà. Il n'y a pas de Père sans Fils. Il n'y a pas de Fils sans Père. Nous avons affaire à des relations. Ça va ? Mais les relations dont il était question à propos de Dieu jusqu'à maintenant, c'est des relations qui étaient externes entre ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Là, Jésus nous fait découvrir une relation qui est entre le Père qui est Dieu et le Fils qui est Dieu. Dans cette relation Père-Fils, qui est pourtant une relation d'altérité, se révèle dans une relation quelque chose qui est constitutif de l'essence intime de Dieu. Car l'essence intime de Dieu, elle est dans cette relation. Et ce n'est pas fini. Car cette relation, c'est une relation d'amour. Donc le Père engendre le Fils. D'accord ? Le Fils, donc, fait retour au Père. Et la relation qui unit le Père et le Fils, qui procède du Père et du Fils, c'est l'amour unissant le Père et le Fils, ce qu'on va encore appeler l'Esprit. Un peu plus loin, Jésus va dire « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, le défenseur, le paraclet. » C'est un terme qui décrit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, il est en Dieu. Mais le propre de l'Esprit de vérité, le souffle de Dieu, c'est qu'il peut nous être communiqué par un don libre de Dieu. Donc le Père engendre le Fils. Ce qui unit le Père au Fils, c'est cette relation d'amour qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour. Mais cet esprit de vérité, Dieu, par un acte libre, va le faire venir en nous, dans notre cœur. Et donc cette vie qui était interne à Dieu, cette vie trinitaire qui était interne à Dieu, par le don de l'Esprit Saint, elle va devenir intérieure à nous-mêmes. si nous acceptons de recevoir cet esprit de vérité. Et selon l'enseignement de l'Église, ce don de l'esprit de vérité, Dieu peut le donner librement dans une effusion de l'esprit, une expérience mystique, mais Dieu s'engage à le donner dans un acte d'alliance qui est un sacrement. C'est-à-dire que tout sacrement est don de l'Esprit Saint, à commencer par le baptême. Donc le Christ s'engage à envoyer l'Esprit Saint qui va permettre de découvrir ce qu'est l'amour. L'amour divin, mais en quelque sorte de l'intérieur. Alors attention, il ne s'agit pas d'un enseignement abstrait. Parce que cet enseignement, il est situé précisément à un moment de l'histoire. Cet enseignement est situé précisément à un moment de l'histoire, c'est juste avant la passion et la résurrection du Christ. Passion et la résurrection du Christ, à laquelle les apôtres assisteront sans rien y comprendre, parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'esprit de vérité. Et donc, ils n'ont rien compris à ce que Jésus leur a dit. Ils le comprendront plus tard, après coup. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la passion? Il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce que enseigne le christianisme, c'est l'essence même de Dieu qui va se révéler dans le mystère de l'incarnation, dans le mystère de la crucifixion et de la résurrection du Christ, ce qu'on appelle le mystère de la rédemption. C'est là que Dieu se fait connaître dans son essence intime. Il se fait connaître dans son essence intime à ceux qui, justement, acceptent de recevoir cet Esprit Saint. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, on pourrait être tenté de dire, bon, je n'ai pas forcément fait une expérience mystique, est-ce que je peux en avoir une représentation? Eh bien oui, je peux en avoir une représentation. C'est-à-dire que je peux avoir une expérience, une concrétisation dans un récit qui est un récit vrai, qui fera sens pour moi si j'accepte de le recevoir à la lumière de l'Esprit Saint. Ce récit qui me découvre ce qu'est l'amour de Dieu en vérité et qui ensuite me fera entrer dans une compréhension de ce qu'est la véritable charité, c'est le récit, justement, de la venue du Christ pour nous sauver, qui endure la passion, qui meurt et qui ressuscite pour nous sauver de nos péchés. C'est ce que dit saint Paul. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Ayez en vous-même, en vous, les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus. Et ensuite, donc c'est pas le point important. Le point important, c'est qu'ensuite, saint Paul reprend ce qui était vraisemblablement un hymne ou une hymne en usage dans les premières communautés chrétiennes. Bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qui apparut de lui. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure que le nom de Dieu, dit par les quatre lettres, le tétragramme, Yod He Vafé, c'est une transposition du nom de Dieu donné à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et ce nom de Dieu ne se prononçait pas. Donc, les Hébreux avaient l'habitude de remplacer le nom de Dieu, quand ils le trouvaient dans un texte, par une périphrase. Cette périphrase, c'est en hébreu l'expression Adonai, que l'on prononçait chaque fois qu'on voyait le tétragramme. Et dans les traductions grecques de la Bible, ça a été remplacé par le terme Kurios, Seigneur, sans article défini. Donc là, Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire Jésus-Christ est celui qui est. Jésus-Christ est celui qui est. Et celui qui est révèle son essence comment ? Paradoxalement, en se faisant homme. Celui qui est au-delà de tout va révéler son essence en se faisant homme et en se faisant plus bas qu'un esclave. En se faisant plus bas qu'un esclave dans un supplice infamant, la mort de la croix, le plus infamant de tous les supplices. Pourquoi ? Dans une mort innocente, acceptée librement pour le salut non seulement de tous les hommes, mais de chaque homme, donc vous et moi. Vous passe encore, mais moi, ça, je ne comprends pas. C'est là que Dieu se révèle, parce que c'est dans cet acte qu'il révèle son amour infini. Un amour qui est un don total de soi. Dieu, ce n'est pas simplement celui qui nous donne l'existence, c'est celui qui est capable de s'anéantir alors qu'il est l'être par soi subsistant. Justement, pour nous permettre d'exister à nouveau si nous avons péché. C'est l'être qui existe de plein droit, qui ne peut pas ne pas exister, et qui est prêt à se vider de lui-même pour nous, pour chacun d'entre nous personnellement. Et c'est en cela qu'il révèle son amour. Et il y aura encore bien d'autres choses à dire. Parce que le mystère de la rédemption, c'est le mystère d'un Dieu qui accepte d'endurer tous les péchés des hommes et qui laisse les hommes libres, se faisant du mal mutuellement, se nuisant mutuellement, mais qui va s'unir à tous ceux qui souffrent des péchés d'autrui. Et qui va, comment dire, quand les hommes pêchent, si vous voulez, ils se nuisent mutuellement. Et nuire à autrui, ça veut dire qu'on contracte une dette envers quelqu'un quand on lui nuit. Que vous faites du mal à quelqu'un, vous avez une dette envers la personne à qui vous avez fait du mal. Et il y a des chaînes de dettes. Je ne sais pas, votre père vous a fait du mal, mais vous-même, vous avez fait du mal à vos enfants ont fait du mal à vos petits-enfants, enfin, ça peut être infini, etc. Vous avez fait du mal à votre belle-sœur qui a fait du mal à votre grande-tante, etc. Bon, voilà. Alors, on aimerait bien, parfois, pardonner, être dans une situation de pardon. Le problème, c'est que moi, je peux pardonner ceux qui m'ont fait du mal, mais je ne peux pas pardonner le mal que d'autres ont fait à d'autres. Si on veut qu'un pardon soit possible, il faudrait déjà pardonner les offenses faites à Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Lui veut bien. Mais Dieu, tout seul, il ne pourrait pas forcément pardonner les offenses que des hommes ont faites à d'autres hommes. Dieu, il peut pardonner les offenses qu'on lui a faites. Il ne peut pas pardonner les offenses que d'autres hommes ont faites à d'autres hommes. Sauf si Dieu lui-même se met en position d'être auprès de tous les offensés. Et si dans la chaîne du péché, c'est celui qui occupe la place tout en bas. Je ne sais pas, si vous travaillez dans certaines entreprises, il y a parfois des structures pyramidales. Vous voyez, donc il y a le chef, quand le chef fait une faute, il reporte la faute sur celui qui est en dessous de lui, puis ensuite on reporte ça. Donc toute la pyramide à la fin. Bon. Et puis tout en bas, il y a celui qui est tout en bas de la hiérarchie, qui n'a rien fait, qui se prend toute la colère de tout le monde sur le dos. Eh bien, maintenant vous prenez le monde entier. Qui c'est Jésus ? C'est Dieu qui s'est fait homme pour se mettre tout en bas de cette hiérarchie humaine, cette solidarité de péché, pour être l'ultime offensé. Mais parce qu'il est l'ultime offensé, il est le seul à pouvoir pardonner tout le monde. Et il est prêt à pardonner à chacun, il n'y a qu'une condition, sinon ça ne marche pas, c'est que chacun de ceux qui reçoivent son pardon en contrepartie, pardonnent à leur tour. C'est ce qui est dans la prière du Christ. La seule chose, il y a 7 demandes dans la prière du Notre Père, il y a 7 demandes de l'homme à Dieu, mais il y a une demande de Dieu à l'homme. C'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que Dieu veut nous pardonner, il propose le pardon, mais il faut que nous-mêmes entrions dans cette logique de pardon. Sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que Dieu va révéler son amour dans ce don total de lui-même, en se plaçant tout en bas, voilà, et il révèle, mais pour qu'il puisse révéler cet amour, il faut qu'il devienne vulnérable. Pour qu'il devienne vulnérable, il faut qu'il se fasse homme. Alors maintenant, il y a une difficulté que je n'ai pas abordée, c'est comment est-ce que Jésus peut être à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Ça sera l'objet d'une autre conférence. Je vous remercie de votre attention. Dieu s'est révélé comme Dieu trinitaire, Dieu d'amour qui manifeste son amour dans ce mystère de la rédemption. Et le lieu vraiment de la rencontre de Dieu que nous pouvons vivre, c'est dans la réception de l'Esprit-Saint, sous une forme extraordinaire. On peut faire une expérience mystique comme Pascal, pourquoi pas. Sous une forme ordinaire, si on est chrétien, on reçoit le baptême, mais là, on le reçoit, on le vit pleinement dans ce vécu de l'amour de charité. Et un de ces lieux privilégiés, ce n'est pas le seul, c'est l'expérience du pardon offert et reçu. Et là, quand on vit pleinement une expérience de pardon offert et reçu, là, on a vraiment rencontré Dieu dans l'essence de son amour, et ça vaut infiniment plus que toutes les théories philosophiques, et pourtant il y en a de fort belles et de fort estimables, et c'est l'aboutissement de la grande œuvre que Dieu a commencée en se révélant à Abraham, Isaac et Jacob.